Jimmy Schumann, je suis comédien à la retraite parfois, semi-actif, et je suis membre de la délégation générale du SFA, du syndicat français des artistes. Je suis à côté d'Angeline Barthe, secrétaire générale adjointe de notre fédération du spectacle, qui est liée à la Confédération générale du travail. Voilà, nous sommes là ce soir. Alors, il y en a d'autres qui sont à l'Odéon et il y en a qui sont là. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce qu'on voulait maintenir cette assemblée qui était prévue de longue date, en fait, depuis la semaine dernière, et qu'on voulait que ce soit possible de discuter et de partager les actualités sur le dossier d'assurance chômage. On peut élargir le débat si vous le souhaitez ensuite, mais d'abord, on voulait vous dire ce qui s'est passé dans ces négociations où j'ai participé hier, ainsi que mon camarade Daniel, ici, du syndicat des réalisateurs, et Denis Gravouille, qui est le secrétaire général de notre fédération, est en ce moment à l'Odéon en train de, s'il peut, selon le sono et selon les flics, expliquer à l'extérieur, au rassemblement qui a lieu sur l'esplanade, la même chose qu'on va dire là ce soir. Donc, a priori, tout le monde devrait être informé. Alors, hier, comme vous le savez sans doute, était censé être le dernier jour des négociations. Le calendrier et le contexte, c'est d'un côté, il y a la FESAC, la Fédération des entreprises du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma et de la musique, même s'il n'y a pas de M dans le titre, et qui regroupe 32 organisations d'employeurs, et de notre côté, cinq fédérations du spectacle confédérées. Ces négociations ont lieu parce que on s'est mobilisé en 2014. Manuel Valls a fait des promesses en juin 2014, comme quoi notre système serait sanctuarisé. Il a même injecté des sous pendant un an et demi. Et une loi sous l'ancien ministre de Travail, l'ex-maire de Dijon, François Rebsamen, est passée en août 2015, qui comprenait plein de mauvaises choses, mais qui comprenait par ailleurs quelques clauses quasiment cavaliers sur... oh non, restez là. Allez à l'encontre les deux qui ont le même âge. Ils ont mis dans la loi le fait que les négociations d'assurance chômage concernant les intermittents du spectacle, les professionnels du spectacle engagés par des contrats à durée déterminée dits d'usage ou par des contrats à durée déterminée tout court, hein, des intermittents, auraient lieu entre les organisations professionnelles du secteur. Mais dans le cadre d'une lettre de cadrage qui serait dictée par les négociés plutôt par les partenaires interprofessionnels, donc à niveau supérieur interprofessionnel, et qui cette lettre de cadrage devait essayer de rapprocher les textes concernant les intermittents du régime général pour le maintenir dans le régime interprofessionnel et d'écrire une trajectoire financière. Nous avons commencé à discuter donc entre partenaires sociaux du secteur le 25 février, me semble-t-il, et nous avons fait 3 ou 4 réunions à raison de 1 ou 2 fois par semaine, non pas au MEDEF pour une fois, mais au Conseil économique, social et environnemental, par les DNA, en face du musée Guimet. Et nous avons essayé de déblayer ce qui ne marchait pas dans le système actuel et voir où on pouvait aller sans avoir la fameuse lettre de cadrage des partenaires sociaux Interpro. Lettre de cadrage qui a enfin été négociée et signée entre elles le 24 mars. Cette lettre de cadrage a été signée par le MEDEF, l'Union des professions des artisans, et le CGPME, la Confédération générale de petites et moyennes entreprises, et le mouvement entrepreneur en France. Et de l'autre côté, par la Confédération française démocratique du travail, par la Confédération française des travailleurs chrétiens, et par la Confédération française de l'encadrement et des cadres. Mais la dernière avait des réserves. Des réserves, disons qu'on demandait trop aux gens du spectacle, et surtout que pour demander ce qu'on demandait, on demandait à ce que le gouvernement intervienne, et qu'ils ne voulaient pas que le gouvernement intervienne. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit qu'il faut rapprocher davantage du régime général, et ils ont dit qu'il fallait économiser 400 millions d'euros entre maintenant et 2020, dont 185 millions d'ici la fin 2017. Ils ont dit que cette négociation professionnelle, sectorielle, devait se terminer le 28 avril. Je fais un petit bond en arrière. La loi a aussi établi un comité d'expertise. Le comité d'expertise a été nommé par les ministres et le gouvernement, enfin par le gouvernement, et dedans on trouve des sociologues, des économistes, des statisticiens, et notamment ceux qu'on connaît le mieux, Jean-Claude Guillot, qui a publié de nombreuses œuvres, enfin de nombreux rapports et analyses sur les secteurs, et Mathieu Grégoire, qui est un universitaire, sociologue, qui a fait des bouquins sur les questions des intermittents du spectacle, et qui est très présent dans nos luttes depuis quelques années. Ce comité d'expertise doit d'abord servir. Alors, ce comité d'expertise comprend aussi les services d'études et d'analyse de l'UNEDIC. L'UNEDIC, vous savez, c'est l'organisme qui chapeaute Pôle emploi, et dans le cadre de lequel la convention d'assurance chômage est gérée. Les experts sont le filtre entre les négociateurs et l'UNEDIC. Nous, on pose des questions aux experts. Les experts vont dans la base de données de l'UNEDIC pour avoir des réponses chiffrées. Mais ce n'est pas eux qui ont un accès direct aux données brutes de l'UNEDIC. Ces données brutes de l'UNEDIC sont contrôlées par l'UNEDIC. Et ce que nous avons découvert, mais ce n'était pas une découverte, l'UNEDIC et ses services statistiques ne sont pas de neutralité absolue, d'une objectivité totale. Ils travaillent avec un visée politique qui leur est donné sans doute par les gestionnaires majoritaires de l'UNEDIC. A priori. C'est pas nous, non. Donc, le 28, c'est-à-dire vendredi, jeudi, où je vous rappelle, il y a un manif, hein, il y a même deux points de rassemblement, à midi, devant le MEDEF, 55 Avenue Bosquet, métro École Militaire, et à 14 heures, d'enfer Rochereau au coin de la rue je ne sais plus quoi. Mais si vous regardez sur les textes, c'est écrit sur le papier que vous pouvez prendre à l'entrée. Le 28, on doit leur donner, si on arrive à un accord avec nos partenaires d'en face, avec la FESAC, on doit leur donner l'accord. Et eux, ils sont chargés de l'analyser et le chiffrer pour les partenaires sociaux interprofessionnels. Ils filent ce rapport. S'ils disent que ça respecte à peu près le cadre qui est imposé, alors normalement, c'est intégré, accepté par les partenaires sociaux et homologué ensuite par le gouvernement. Si jamais il y a un accord par ailleurs sur le régime général, qui pour l'instant, les négociations sont, disons, conflictuelles. C'est pas encore garanti qu'il y ait un accord. On verra. Nous, hier, et Rémi qui arrive, qui était aussi hier dans les négociations, nous avions pas mal balayé déjà le champ de cette convention. Et parmi les choses donc, qu'on a vues dans le champ, c'est que plutôt que de s'appuyer sur les codes NAF pour déterminer qui avait droit, qui entrait, quelles entreprises entraient dans le système, dans les annexes, ça serait les conventions collectives, essentiellement. Et pour les entreprises où il n'y a pas de convention collective, ça serait un certain nombre d'entreprises nommées nommément dans l'accord. Parce que, par exemple, certaines télévisions n'ont pas de convention collective encore établie et finalisée. Par ailleurs, pour les artistes, il est reconnu comme aujourd'hui, a priori, sauf où il y a parfois des problèmes, que les artistes entrent dedans, quel que soit leur employeur. Les activités qui sont acceptées, ce sont des activités qui sont mentionnées dans les conventions collectives. Donc, les résidences pour les artistes, et les techniciens d'ailleurs, sont compris. Il y aurait plus de problèmes où Pôle emploi pourrait dire cette résidence, ça ne compte pas. Certaines activités dites connexes, s'ils sont dans la convention collective, ils comptent, comme des heures de spectacle. Par contre, s'ils sont hors d'une convention, si ce n'est pas une activité liée directement au monde du spectacle, spécifiquement, ça ne compte pas, comme aujourd'hui. Hein. Par ailleurs, les heures d'enseignement sont étendues aux techniciens dans notre accord, si on arrive à avoir un accord dans le texte actuel. Les heures d'enseignement sont prises pour les techniciens aussi bien pour les artistes et avec, pour l'instant, un léger rehaussement du seuil. Donc le seuil passerait, au lieu d'être à 55 heures pour les personnes qui ont moins de 50 ans, ça serait 70 heures. Et au lieu de 90 heures pour les plus de 50 ans, ça passerait à 100 ou 120. Il y a une liste, des entreprises qui peuvent embaucher pour enseigner, et c'est légèrement plus large qu'aujourd'hui. Sur les seuils d'accès, j'ai dit pour les techniciens aussi. Pour les seuils d'accès, 507 heures en 12 mois pour les artistes n'a pas posé de vrai problème et a été accepté assez rapidement. 507 heures en 12 mois pour les techniciens n'était pas acquis hier, au matin. Mais à 16h30, le représentant du syndicat des prestataires spectacles vivants, le SIMPAS, a annoncé qu'il quittait la négociation parce que la FESAC avait décidé d'accepter 507 sur 12 pour les techniciens aussi, là où lui, il voulait que ce soit 677 sur 12. La CFTT, qui n'était pas très chaud pour aller à 12 mois pour les techniciens, a aussi finalement accepté 507 sur 12 pour les techniciens. Après, c'est quoi? Après les critères d'accès, l'allocation. L'allocation serait le même après plusieurs propositions, plusieurs modèles. L'allocation serait calculée de la même manière qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, pour ceux qui le savent, A plus B plus C, A étant un paramètre concernant la quantité d'argent qu'on a gagné sur un an, enfin maintenant sur un an, avant sur 10 mois et demi, ou 10 mois selon, B étant le paramètre nombre d'heures déclarées, et C étant l'allocation minimale. Donc, ça va être exactement comme aujourd'hui, le calcul. La seule différence, c'est que ça sera calculé sur 12 mois au lieu d'être sur 10 mois ou 10 mois et demi. Donc, si le fait de augmenter le nombre de un mois ou un mois et demi, deux mois ou un mois et demi, la période de référence fait que proportionnellement on a un peu plus de boulot, alors on devrait avoir la même allocation qu'aujourd'hui. Si par contre si on a exactement le même nombre d'heures de travail, malgré le fait qu'on a un mois ou un mois et demi de plus pour les avoir, ça va entraîner mécaniquement une légère baisse de l'allocation. La franchise. On ne parle plus de différé, on parle de franchise, et c'est exactement le genre de franchise qu'on avait autrefois, pour ceux qui sont un peu plus âgés. Il y a quand même quelques plus jeunes, c'est bien. La franchise, c'est un nombre de jours non indemnisables parce qu'on a gagné des sous. Hein. Et c'est progressif en fonction de ce qu'on a gagné et en fonction de combien d'heures on a travaillé. Donc c'est... si on gagne beaucoup d'argent, on peut, si on gagne des millions et des millions dans très peu de jours, on va avoir une très grande franchise. Pour les moyens, ça pourrait être un peu plus grave que récemment, mais pas forcément, car comme autrefois et pas comme dans l'accord de 2014, on calcule une franchise, et puis on enlève un certain nombre de jours de cette franchise. Donc la franchise est moins importante. Et les propositions qui ont été faites, c'était moins 10, moins 20, moins 30. À la sortie, normalement, de la négo d'hier, on aurait acquis, nous espérons, moins 30. Ce qui est exactement ce qu'on avait il y a quelques années. Aussi, pardon, on a acquis la notion d'une date anniversaire. La CFTT souhaitait, non pas une date anniversaire, souhaitait maintenir l'idée d'un capital de jours, c'est-à-dire un certain nombre d'allocations, et on allait jusqu'à l'épuisement. Il proposait d'augmenter de 243 à 280. Nous, on était sur la position d'une date annie. Il n'est pas encore très clair si la date anniversaire sera fixe ou glissante. Fixe, ça veut dire que si tu ouvres tes droits le 15 mai, chaque année, on va réexaminer le 15 mai. reste le problème de savoir ce qui se passe si le 15 mai, tu es sous contrat. Et la FESAC voudrait que si tu es sous contrat, on puisse quand même examiner les droits. Et ensuite, on verrait s'il y a une deuxième décision, si jamais c'était ça. Est-ce que, une fois les dates examinées, si on ouvre de nouveaux droits, est-ce qu'on commence à les servir à la fin de ce contrat en cours, ou est-ce qu'on commence tout de suite, ou est-ce qu'on remonte avant? Donc ça, c'est pas réglé pour l'instant. On veut des chiffrages là-dessus. L'autre possibilité, c'est un date glissante, c'est-à-dire un peu comme ce que dit le texte. Si on arrive, on arrive à sa date anniversaire, donc qui a été établie le 15 mai, si on est sous contrat ou pas, on remonte au dernier contrat, et c'est là où on... dernière fin de contrat, là on trouve un jour où il n'y a pas de boulot, et on regarde sur la période de référence d'un an maximum, s'il y a de quoi ouvrir de nouveaux droits. Exactement comme auparavant, tu vas le 15 mai, tu arrives à ta date anniversaire, tu cherches la dernière fin de contrat de travail avant ta date anniversaire, et on remonte un maximum d'une année précédente jusqu'à ta dernière ouverture de droit au maximum. Oui. Je vais jusqu'au bout, Daniel, et puis attends. Donc ça, c'est le calcul et l'ouverture. Décalage. Vous savez, quand on bosse, on décale. Il y a des jours qui ne sont pas tout de suite servis, qui sont servis après parce qu'on ne paye pas quand on bosse. Aujourd'hui, on prend les heures travaillées dans le mois, on divise par 10, on multiplie par 1,3 ou 1,4 selon si c'est des techniciens ou les artistes. Ça serait pareil qu'aujourd'hui, avec une amélioration pour les réalisateurs. Il y a deux réalisateurs présents, donc c'est pour eux qu'on le dit. Il y a une amélioration, légère amélioration pour les réalisateurs. On a aussi calculé que pour les artistes ou les techniciens, si on travaille 26 jours pour les artistes ou 27 jours pour les techniciens, ou le contraire, je ne me souviens plus, on n'est pas du tout 26 techniciens, 26 techniciens, 27 artistes, alors on n'est pas payé les 3 ou 4 jours restants du mois. Par ailleurs, et là c'est une chose un peu plus qui a posé de gros problèmes dans les négociations, les congés spectacles, les congés payés, les congés seraient décalés. Actuellement, vous savez, tu touches tes congés spectacles et tu touches tes congés spectacles, pardon, et tu touches tes acédiques en même temps. Là, il y aurait un système pour calculer les congés. C'est grosso modo, c'est 10% hein, des jours travaillés. Et il serait non payé. Il serait décalé, reporté. Mais, ils ne seront pas pris en compte pour l'ouverture des droits. Et pourtant, ce sont des jours de travail, des jours de travail reposés, payés avec cotisation acédique et tout. Néanmoins, ça, c'est pas gagné. Ça n'a pas été gagné. C'est logique qu'ils soient décalés. Mais il serait aussi logique qu'il soit pris en compte pour l'ouverture des droits. Bon. On a légèrement amélioré le maintien des droits à 62 ans. Vous savez, actuellement, si tu as 62 ans, tu es en cours d'indemnisation, tu as 100 trimestres d'appartenance depuis le début de ta carrière à la Sécu, tu as la possibilité, éventuellement, de maintenir tes droits en cours si tu remplis certaines d'autres conditions, notamment 15 ans d'appartenance au régime acédique, ça veut dire 15 ans fois 365 jours, c'est 15 ans de CDI. Hein. Il y a peu de gens dans le spectacle qui arrivent avec ça, mais il y en a. Mais si tu n'as pas ça, et si tu as 9000 heures de travail dans les régimes, dans des annexes, dans le spectacle, tu peux en bénéficier de ce maintien si tu as fait 1521 heures dans le spectacle dans les trois dernières années. Ce qui veut dire que, grosso modo, tu as ouvert tes droits à CEDIC, sans doute, sur les trois dernières années. Dans le système qui est proposé, on l'améliore légèrement parce qu'on donne la possibilité de comptabiliser certaines heures de régime général jusqu'à 3000, en fait, dans les 9000 heures spectacle qui étaient prévues. C'est-à-dire que tu fais donc 6000 heures de spectacle et le reste pourrait être du régime général. Il y a un truc que j'ai oublié. Oui, quand même. Sur la sécu, pour les femmes enceintes, c'est fini. Mais pour le prochain, il y a les prochains. Actuellement, si tu as un congé maternité, si c'est indemnisé par la sécu, ça compte pour 5 heures par jour pour ouvrir de nouveaux droits, mais tu ouvres tes nouveaux droits à un taux merdique si tu n'as pas bossé avant d'être enceinte, avant d'être obligé par la loi d'arrêter de travailler. Ou bien travailler après. Hein. On a proposé deux choses. Une chose, c'est une belle chose qui... ça, gérer, c'est un peu en dehors de l'assurance chômage. Ça tombe dans entre le fonds de professionnalisation, vous savez, qui est géré par Audience et par Pôle emploi, et surtout par l'Institut de prévoyance d'Audience, qui est l'organisme qui gère et une complémentaire santé et les incapacités permanentes et temporaires de travail des intermittents du spectacle payés par des cotisations d'employeurs, des employeurs. Il y aurait, comme en fait, il y a de l'argent dans cette caisse, puisque les gens du spectacle se déclarent malades pas souvent. Et heureusement, tout le monde n'est pas tué tout le temps. Il y en a des gens qui ont des accidents, trop, mais quand même, il y a du fric. Donc, il y aura mise en place, et ça a été acté, c'est pas encore fait, mais par contre, ça a été acté par le bureau du comité de suivi de l'Institut de prévoyance, d'établir une allocation spéciale pour les femmes enceintes en congé mat qui n'ont pas pu avoir des droits, des allocations, des indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, il y aura une allocation, et cette allocation générera des 5 heures, des fameuses 5 heures par jour, pour ensuite ouvrir des ACEDIC. Deuxième chose, concernant ces mêmes personnes, mais y compris celles qui ont eu des droits congés mat payés par la Sécu, comme on a dit, ils ont un taux merdique, en général, parce qu'elles ont peu travaillé, étant la plupart de leurs heures étant des heures gratuites de la Sécu, on a trouvé un système avec l'association les matermittentes, mais aussi avec Audience et le Fonds Pro, un calcul du taux qui baserait le taux de l'indemnité de l'allocation ACEDIC, allocation d'assurance chômage, qui baserait ça sur la période travaillée et qui ferait une moyenne des cachets, des jours de travail vraiment travaillés pour trouver un salaire de référence moyenne qui serait appliqué aussi à la période d'arrêt, qui permettrait d'avoir un taux sinon glorieux, du moins mieux que les 3 euros, les 9 euros qu'on voit actuellement. Euh, plongée, plafond, le plafonnement. Vous savez que quand, actuellement, quand le cumul des allocations et des salaires sur un mois arrive à 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, quand on arrive au plafond de la sécurité sociale qui est actuellement de 3218 euros. Si le cumul des allocations et des salaires arrive à 1,4 fois 3218 euros, on arrête tes allocations pour ce mois-là. Ça veut dire à peu près 4500 balles. Les autres veulent abaisser le coefficient. Et la dernière proposition hier, qui pour l'instant on trouve inacceptable, c'est 1,1 fois le plafond de la sécurité sociale mensuelle, mais calculé sur 3 mois. C'est-à-dire, globalement, tu cherches, si sur 3 mois on a gagné 9 000 et quelques, 3 fois le plafond, et si c'est le cas, le mois suivant, on ne te paye pas d'alloc. Donc il faut réfléchir et faire des économies. Pour l'instant, on n'a pas accepté ça non plus. La mise en place d'une commission paritaire de suivi et d'interprétation avec la possibilité d'étudier le cas individuel. C'est en fait une commission de recours et pour des cas individuels. Ça ressemble à ce qu'on avait jusqu'il y a 7 ou 8 ans, à Paris du moins, et dans certaines régions, une commission spécifique sur les annexes 8 et 10, où les gens savent de quoi ils parlent et peuvent étudier les cas litigieux. C'est une commission de recours. Ça serait très bien si on arrivait à avoir ça. Alors, là où il y a un gros problème, c'est sur les ressources. Parce que pour arriver à tout ça, il faut trouver des sous. Je vous rappelle le contexte, avant d'y arriver à ces sous. Le contexte, c'est le MEDEF et les autres demandent 185 millions d'économies tout de suite. Le MEDEF demande 185. La FESAC fait des calculs et disent le gouvernement a déjà mis 80 millions dedans parce qu'ils avaient payé pour le différé. Donc, et continue d'ailleurs pour l'instant à payer pour le différé, l'ancien différé. Donc, il ne reste que en fait 105 millions à trouver. Certaines choses, le fait d'ouvrir à 507-12, d'après les statisticiens de l'UNEDIC, coûterait en plus d'aujourd'hui 150 millions d'euros. Parce que il fait entrer pas mal de monde qui était ric-rac et qui gagne en général peu, mais qui sont à indemniser. La proratisation de l'allocation et le fait qu'il y ait plus de monde en bas de l'échelle à qui il faut donner y compris l'allocation minimale coûte, selon eux, 93 millions. Les autres différentes avancées qu'on a citées coûte aussi un peu d'argent. D'après les statisticiens, il faut dire que ces statisticiens, dans leurs calculs, ont intégré ce qu'ils appellent les effets de comportement. Pour eux, les effets de comportement, c'est que nous sommes tous des paresseux tricheurs. Bon, moi je suis paresseux, mais je ne suis pas tricheur. Mais ils considèrent que nous sommes des paresseux tricheurs et que, d'après eux, les statistiques démontrent qu'à chaque changement de régime, changement de règlement, les intermittents s'adaptent. Et que notamment, dès qu'il y a... dès qu'on dit qu'il y a moins de mois pour faire tes heures, tu fais des heures quand même, donc l'intensité du travail augmente parce que tu fais plus de travail dans moins de jours. Et ils disent, ils projettent d'après ça que si on fait plus d'heures, plus de mois de période de référence, on va faire le même nombre d'heures, on ne va pas faire plus d'heures. Et que par ailleurs, puisqu'il y a des franchises pour des salaires plus élevés, dès qu'on arrive près d'un plafond, on va arrêter de travailler aussi. Donc ils intègrent tout ça dans leur compte et ils disent que ça coûte 150 millions, mais on peut supposer que dans les 150 millions ou dans les 93, il y a 10 ou 15% d'effets de comportement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les statisticiens experts n'arrivent pas à avoir des données brutes. Ils proposent, donc je vais finir. Je voulais être complet, je suis désolé. Je vais finir et merci de votre patience. Ils proposent la FESAC a proposé, chose qu'on demande depuis de nombreuses années, la suppression des abattements dits pour frais professionnels sur l'assiette de cotisation sociale pour les artistes interprètes et certains techniciens de 20% ou de 25%. Ils ont accepté cela, mais ils proposent pour l'instant de l'appliquer uniquement aux cotisations ACEDIC et non pas sur le Sécu, sur la retraite, etc. On a toujours accepté l'idée que ce soit progressif parce qu'on sait que ça coûte aux entreprises. Y compris le fait de faire ça que sur les ACEDIC, ça pourrait être acceptable pour l'instant, en attendant mieux. Mais ils proposent de faire ça qu'à partir du 1er janvier 2018. Ce qui fait déjà, on est dans le début de la prochaine convention. Donc c'est vraiment trop tard. Ils ont refusé le déplafonnement des cotisations. Vous savez que c'est plafonné sur des jours de travail à 4 fois le plafond journalier de la sécurité sociale. Donc si tu as un cachet qui dépasse cela, le reste n'est pas cotisable, ne génère pas des droits supplémentaires et surtout ne génère pas des ressources supplémentaires pour la caisse. Et dernièrement, ils ont accepté d'augmenter la cotisation patronale sur les l'assurance chômage de 0,5% ou de 1%. Et in fine, hier, dans la dernière proposition, on était à 0,75 de leur côté, avec 0,25 au 1er juillet 2016 et 0,50 au 1er janvier 2017. Cela représente des sommes insuffisantes pour combler les autres choses nécessaires, les choses qui sont dépensées en plus, d'après eux. On arrive à, à quelque chose où les employeurs, si on considère qu'il y a une enveloppe fermée de 100 millions, les employeurs prennent à leur charge un peu moins d'un tiers, et deux tiers du moins sont payés par les salariés. C'est ce qu'on a dit à la fin hier, à 1h15 du matin. On a dit qu'il nous manquait des chiffres sur les effets sur des cas individuels des différentes mesures, notamment le plafonnement, le décalage, les congés. On voulait des chiffres sur des cas individuels de l'allocation, comparatif entre aujourd'hui et demain. Et on voulait qu'ils améliorent leur, ce qu'ils mettent dans le pot, leur contribution. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Et du coup, voilà, du coup, on a dit, on ne peut pas signer aujourd'hui, on ne peut pas même signer un pré-accord, parce que de toute façon, les organisations syndicales, chacune doit se référer à ses instances. Mais on a dit, on ne peut pas vous dire oui aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les éléments, et en plus, vous êtes pingre. Donc, on a dit, on se revoit mercredi. Mercredi après-midi, on est toujours dans les... C'est le 27. La date limite est censée être le 28. Voilà, le bureau fédéral de la Fédération du spectacle CGT a décidé ce matin que, pour l'instant, ce n'était pas signable. Et j'ai fini pour l'instant et je passe la parole à Angéline.
Merci, Jimmy. Merci Jimmy et merci pour cette intervention à la fois précieuse et précise, sans notes, vous remarquerez. Donc bravo. Je pense que c'est important de faire un point là où on en est actuellement. On va vite passer la parole parce que vous avez sûrement 50 000 questions, même si cette intervention a été très, très précise. Juste pour vous dire qu'actuellement, donc, on est donc dans la deuxième phase. Il y a trois niveaux de négociation. On est à l'issue du second, qu'on a encore... pour l'instant, donc, ce que vous disiez, Jimmy, c'est que pour nous, l'accord, il n'est pas signable actuellement, même s'il y a un grand nombre d'avancées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les syndicats de salariés sont absolument divisés sur un certain nombre de points. On est tous d'accord pour les 507 heures sur 12 mois pour les artistes. Pour les techniciens, on est les seuls à le défendre actuellement. Néanmoins, si un accord se signe et si les employeurs font des efforts mercredi, et donc si peut-être qu'on sera peut-être en mesure de signer, notre signature, on signera seulement si on aboutit à ces 507 heures sur 12 mois pour tout le monde, artistes et techniciens. Donc comme la FESAC reconnaît notre représentativité, parce qu'on est majoritaire dans le secteur spectacle vivant, audiovisuel, cinéma, tout confondu, la FESAC va chercher aussi notre signature. Donc, si on est en mesure de signer, il y aura les 507 heures sur 12 mois pour les artistes et pour les techniciens. En tout cas, ça, c'est clair. Voilà. Après, on a quand même beaucoup de chemin à faire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même si un accord est signé, après, on va devoir faire pression sur le MEDEF. Parce qu'il arrivera le 28 avril en négociation interprofessionnelle. Ensuite, les experts vont vérifier s'il correspond ou pas au cadrage budgétaire. Et nous, en fait, on ne négocie pas dans le cadrage budgétaire. Les employeurs voudraient nous entraîner là-dedans en faisant des additions pour arriver à 105 millions d'euros d'économie. Mais ça, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, l'accord qu'on signera, il ne sera pas à 105 millions d'euros d'économie, ce que veulent les employeurs. Donc, après, il va falloir que nous, on se batte. Par rapport au MEDEF, CGPME, UPA, CFDT aussi, pour que l'accord soit accepté ensuite et soit validé dans le cadre du secteur interprofessionnel. Donc l'accord arrive le 28, les experts vont analyser est-ce qu'on respecte ou pas le cadrage budgétaire. Ils ont 3 semaines pour ça, et donc 3 semaines après le 28, il va revenir dans le cadre de la négociation interprofessionnelle. Donc on va avoir 3 semaines pour faire une grosse pression, sur MEDEF, mais également sur le gouvernement, puisqu'on vous rappelle quand même que Manuel Valls, à Avignon, en juillet 2015, a fait des annonces, a fait une grande campagne de communication en nous disant les annexes sont sauvées, elles sont pérennisées, il n'y a pas de raison que les intermittents contribuent davantage aux économies, ils en ont déjà suffisamment fait. Voilà, donc on va aussi lui rappeler, il faudra aussi qu'on lui rappelle ses promesses. Donc il y aura des doubles pressions à faire dans les jours qui viennent. On vous passe la parole tout de suite, si vous avez des questions techniques. On vous rassurez-vous, le temps de parole de Jimmy est minuté pour les réponses.
Cet accord n'est fait qu'avec les partenaires sociaux, ça j'ai pigé. Et il y a un autre combat derrière, mais c'est bien dans le cadre d'acceptation des économies demandées par le gouvernement qu'on arrive à cet accord, parce que la FESAC, elle, est pour cette rentrée dans le cadre. Est-ce que c'est ça l'idée? Parce que si c'est ça, c'est pas du tout admissible, quoi.
Dès le premier jour de la négociation professionnelle, avant même d'avoir la lettre de cadrage, il a été dit que du côté des syndicats FO et la CGT, du moins, que quel que soit le cadrage, nous poursuivions une négociation sur les choses, nos revendications et les exigences d'un bon accord. On a toujours prétendu, nous, par exemple, à la CGT, à la Fédération du spectacle, qu'on pouvait faire quelque chose de juste, socialement juste et efficace, qui coûterait en fait pas plus cher que ce que ça coûte actuellement, et probablement moins. La FESAC n'était pas exactement sur la même position, mais on s'est tous mis d'accord, y compris la CFTT, comme quoi on allait continuer à travailler, quelle que soit la lettre de cadrage. La FESAC, une fois la lettre de cadrage tombée, la FESAC a dit il nous faut 105 millions d'économie pour rester à peu près dans la lettre de cadrage, même si personne n'a été à l'euro près. Si on restait globalement dedans, ça semblait les satisfaire. La CFTT nous a même dit en off que dans leur discussion relativement ardue avec leur confédération, qu'ils avaient 10-12% de marge. Cela dit, nous n'avons jamais accepté le cadrage, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas reconnaître les chiffres qui sont devant nos yeux. Mais c'est pas notre ligne de conduite n'est pas dictée par la lettre de cadrage. Par exemple, nous, sur l'allocation de journalière, on voulait que la courbe qui est actuellement, les gens qui sont avec peu de revenus de salaire et peu de travail, ont des toutes petites allocations. Et puis, au haut de l'échelle, il y a des gens qui ont pas mal des allocations. C'est toujours moins que dans le régime général, mais ils ont quand même des allocations très confortables. On voulait un peu rééquilibrer la courbe pour prendre sur le bout extrême des gens qui avaient le plus et réinjecter une partie de ce fric dans le parti basse. Ça ferait des économies sur les allocations des gens qui sont les mieux indemnisés, on le jetterait dans le bas de l'échelle. Le problème, c'est que quand on a vu les chiffres sortis par les experts, y compris les experts qui sont de notre côté, on a vu que ça ne fonctionnait pas parce qu'il y a si peu de gens en haut de l'échelle, il n'y avait que dalle à réinjecter ou très peu à réinjecter dans le bas, sauf à rogner énormément sur les milieux. Et ça, on ne souhaitait pas le faire.
J'aurais deux questions. La première, c'est quelles sont les chances en négociation interprofessionnelle que cet accord soit reconnu comme étant intéressant à étudier ? Et la deuxième question, c'est concernant le financement du différé qui est actuellement pris en charge, si j'ai bien compris, par le fonds emploi, par l'État donc. Quelle est la position d'une part des partenaires sociaux et quelle est la position de la FESAC ?
Je participe aussi à la négociation. On s'est quitté hier soir à 1h30 sur un désaccord quand même profond avec la FESAC. Je répondrai à la question, mais c'est pour situer dans l'ensemble. Jimmy nous a donné un détail très minutieux du contenu du projet d'accord FESAC. Mais tout ne pèse pas le même poids dans cet accord. Certes, on avance tout ce qui nous semble le plus juste et on cherche à corriger ce qui nous semble le plus aberrant dans le système. Alors, tout ce qui concerne les affections longue durée, les maladies graves, ce qui concerne les personnes âgées, moi je suis plus âgé que ça, mais les personnes de 62 ans qui n'ont pas les trimestres pour arriver à la retraite, mais qui n'ont plus les heures, là-dessus, ils sont très attentifs, ils ont bon cœur. Ils ont bon cœur, hein, ils veulent bien s'occuper des cas qui font pleurer Margot, parce que ça ne coûte pas très cher, parce qu'on a les statistiques, ça concerne 1% des allocataires. Nous, ça nous concerne beaucoup, mais si c'est 1%, on peut être généreux. Donc, ils sont généreux là. Pour le reste, ce sont nos employeurs. Nos employeurs tiennent absolument à la sauvegarde et ce qu'a perduré notre régime d'annexe spectacle. Ils y tiennent mordicus parce qu'ils préfèrent qu'on soit payé par les acidiques que payé par eux. Ils préfèrent que les acidiques nous payent plutôt que de nous faire des contrats qui couvrent la réalité de notre temps de travail. Ça, c'est la réalité. Ils ont donc un trouille bleu que nos régimes sautent. Parce que ça les coûterait dans la merde. Alors, pour cela, ils veulent absolument un accord avec nous. Pour dire au MEDEF et aux autres partenaires, CFDT, donc, voilà, on a trouvé la solution, il y a un accord. Mais pour pouvoir justifier et crédibiliser cet accord, il faut qu'il y ait des économies. Et ça, je regrette, Jimmy, que tu n'as pas été très clair dans ce que tu as dit. C'est que la FESAC nous pose un ultimatum. C'est là-dessus qu'on est parti hier soir à 1h30. La FESAC dit, faites vos revendications, on accepte tout ce que vous voulez. On n'a pas de religion dans cette affaire. Vous voulez 507 heures sur 12 mois, vous voulez 365 jours d'indemnité. On veut bien tout ce que vous voulez, à condition que tout cela coûte 101 millions de moins que ce que coûte le système aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas qu'il y ait des avancées, comme je dis, sur des choses qui concernent 1% de la population. Voilà, ça veut dire que eux, veulent absolument respecter la lettre de cadrage. Ils ne la respectent pas à la lettre, parce que la lettre de cadrage, c'est 185 millions d'euros. Mais Mme Azoulay, notre ministre de la Culture, a déclaré les 185 millions d'euros d'économie que demande le MEDEF, c'est une provocation, il ne faut pas que ce soit 185, 100 millions ça serait bon. Elle l'a dit textuellement, 100 millions ça serait bon, parce que sur les 185 millions, le MEDEF propose que 85 millions soient payés par l'État. Alors évidemment, elle ne veut pas payer. Donc en fait, il s'agit bien de 100 millions. Et la FESAC nous demande de baisser le coût de nos annexes de 100 millions. Attends, Anita, s'il te plaît. Comment peut-on faire 100 millions d'économies sur nos annexes ? Il n'y a que trois manières. Il y a trois manières. Soit baisser le montant des allocations, soit baisser la durée d'indemnisation, soit cotiser plus. Et quand je dis cotiser plus du côté patronal, et ça, Jimmy l'a bien expliqué. Alors, sur ces trois solutions, hein, est-ce qu'on baisse l'allocation, est-ce qu'on baisse la durée, ou est-ce qu'on casque plus? Nous, pour notre part aussi, on a dit, derrière, il faut être honnête, on a dit que si les employeurs étaient d'accord pour réellement payer plus, c'est-à-dire pour déplafonner les salaires sur lesquels sont payées les cotisations, s'ils étaient d'accord pour supprimer les abattements ex-fiscaux qui ne le sont plus, les abattements pour frais professionnels hein, de 20 et 25%, s'ils étaient d'accord pour augmenter leur cotisation, parce que leur cotisation, elle est de 4%, la nôtre, elle est de 2,8%. Vous remarquerez, hein, c'est pas un tiers, deux tiers, c'est 2,8 pour nous, 4 pour eux. Si eux, ils étaient d'accord, ben on était d'accord peut-être pour augmenter d'un demi-point, on y mettrait aussi un peu. Mais alors, sur les trois possibilités, baisser les allocations, baisser la durée ou payer plus, ben le FESAC, ils sont d'accord sur tout sauf la troisième. Il n'est pas question pour eux de payer plus. Poussés jusqu'au bout dans leur retranchement, ils ont accepté, comme l'a dit Jimmy, d'augmenter leur cotisation de 0,75%, mais attention, c'est 0,25% au 1er juillet 2017 et 0,50% au 1er janvier 2018. Et au 1er janvier 2018, on sera déjà en train de négocier la prochaine convention UNEDIC. C'est-à-dire que, quelque part, bien qu'ils ont bien compris que nous, on a dit, on ne signera rien s'il n'y a pas 507 heures sur 12 mois pour un an d'indemnisation pour tous. Ils ont besoin de notre signature. Alors, comment ? On a dit qu'on ne signerait pas sauf ça. Donc ça, ils disent oui. Mais il faut retrouver les 100 millions, ces 101 millions ailleurs. Alors, c'est ça où ça. Donc, il y a toute une série de mesures que Jimmy a détaillées, mais qu'on les voit dans le détail, on ne sait pas ce qu'elles pèsent chacune, comment elles fonctionnent. D'ailleurs, nous non plus, quelque part, parce qu'ils ne nous donnent pas des chiffres suffisamment précis pour voir comment ça fonctionne, mais c'est franchise, différé, non-paiement sur les jours de congés payés hein, et plafonnement du cumul. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir 507 heures sur 12 mois d'affiliation, de référence, mais au moment de l'ouverture du droit, qu'est-ce qui se passe si on doit attendre un mois avant de toucher son droit, si ce droit est inférieur à celui qu'on avait avant, si lorsqu'on travaille dans un mois, parce qu'il y a ça aussi, il y a le décalage mensuel, hein, à partir de tel seuil, on ne touche plus rien. Hein, et quant au plafonnement, c'est quand même énorme, parce qu'aujourd'hui, le cumul du plafonnement, il est à 4500 euros par mois, ça deviendrait 3500, même lissé sur 3 mois, c'est 3 fois. Hein, sur 3 mois, moyenne, donc ça revient au même, c'est le calque, c'est la manière de le défalquer qui est différent, mais ça fait 1000 euros de moins, 20% de baisse sur le plafonnement. Alors, moi, la négociation n'est pas terminée, puisqu'on est parti fâché et qu'on se revoit demain à 16h, on va voir s'ils révisent leur position, mais de signer un accord sur nos annexes qui coûtent 100 millions de moins, je ne vois pas où on va.
Juste par rapport à ta question, hein, quelle chance on a de faire pression et de faire valider notre accord par l'Interpro. Les chances, on n'a pas 100% de chance. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est que là, on sait qu'on est vraiment au centre d'un conflit entre MEDEF et gouvernement sur la loi travail. C'est-à-dire qu'on pense que si on nous tape si fort dessus, s'il y a un cadrage budgétaire aussi insupportable, c'est pour faire pression sur les soi-disant reculades du gouvernement sur la loi travail. Donc, on sait que ça se joue aussi à ce niveau-là et que de toute façon, ça se jouera, l'agrément de notre accord, il se jouera à un niveau politique. Il se jouera, tout va dépendre de si une convention globale d'assurance chômage, une convention générale est signée, parce que là, vous savez que le MEDEF menace de quitter la négociation assurance chômage. Il fait pression toujours par rapport à la loi travail. Et il y a quand même 800 millions d'euros d'économies qui sont demandées là sur le dos des chômeurs. On n'est pas sûr qu'il y ait un accord qui soit signé. Et donc, à un moment donné, si nous, on arrive à démontrer qu'on peut signer un accord dans notre secteur, qu'ils n'y arrivent pas à l'interpro, voilà, il y a peut-être un moyen politiquement aussi de réussir à faire pression en disant bah, « Écoutez, nous, on ne comprend pas, on y arrive. » et de pousser à ce que cet accord il soit finalement accepté et validé. Mais en tout cas, sans pression et sans action, sans manifestation, sans grève, sans occupation, sans action, on n'y arrivera pas. Enfin, voilà, il va falloir passer un stade, là, un cran au-dessus. Et je pense qu'on a vraiment besoin de la mobilisation du plus grand nombre. Et maintenant, enfin, on n'attend pas les festivals d'été, ce sera trop tard.
Question sûrement idiote et surannée. Il y avait eu plein de rapports, style rapport Roiquin, qui prouvaient qu'on n'était pas, nous, déficitaires. Ils ont été enterrés, brûlés.
La question, c'est déficit. Si tu regardes simplement les annexes spectacles séparément, isolément du régime interpro, les chiffres démontrent que on encaisse moins en ressources, en recettes, en cotisations qu'on verse en allocation. Donc si tu le sépares de tout le reste, tu vas trouver ce fameux déficit. Notre position a toujours été que tu ne peux pas le détacher de tout le reste. Et qu'un système qui est fait pour compenser les pertes d'emploi, un truc qui est structurellement, quasiment structurellement, en activité discontinue, va forcément être obligé à payer beaucoup de prestations. Donc, il n'y a pas de rapport qui dit qu'il n'y a pas de déficit. Il y aurait un déficit mécanique si tu regardais que ça.
Je peux apporter un tout petit complément. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Le MEDEF, c'est pertinemment qu'il n'y a qu'une seule caisse. C'est pertinemment que les annexes 8 et 10 ne constituent pas une caisse autonome. Ce sont pourtant eux qui produisent ces espèces de mensonges insensés du fait qu'on coûte 1 milliard d'euros et que ça représente quasiment l'entièreté du déficit, etc., etc. La réalité qu'on disait déjà en 2014 et qui est toujours vraie, c'est qu'aujourd'hui, c'est Anita ensuite, c'est qu'aujourd'hui, les allocataires des annexes 8 et 10, qui touchent donc des allocations, représentent 4% des chômeurs indemnisés en France. Et les allocations qui leur sont versées représentent 4% des dépenses. Donc nous ne coûtons pas plus cher qu'un chômeur lambda. Et toute la propagande, c'est de dire que nous sommes des privilégiés, que nous touchons beaucoup trop d'ACEDIC et que nous coûtons beaucoup plus cher. Ils ne vont jamais voir du côté d'autres catégories de chômeurs qui sont très largement indemnisées et pendant très longtemps. Par exemple, les cadres. Pourquoi ils ne vont pas voir là? Parce que, évidemment, pour l'instant, ils ne veulent surtout pas toucher au système d'indemnisation des cadres, parce que c'est très important qu'ils puissent avoir des cadres bien indemnisés. Voilà, ce serait beaucoup trop compliqué de se fâcher avec les cadres. Ils tapent sur nous, évidemment, pour des raisons idéologiques, en sachant pertinemment que c'est un mensonge. Voilà.
Moi, je voulais juste dire, ils tapent sur nous comme ils ont toujours tapé, uniquement parce qu'on est, on représente, disons, la condition de travail intermittente ou en CDD qui concerne à peu près beaucoup d'autres secteurs que le nôtre. C'est pour ça qu'ils tapent sur nous. Par contre, dans les propositions que Jimmy a énoncées tout à l'heure très clairement, enfin, là où vous en êtes de la négociation, ça s'inscrit dans un principe d'économie des fameux 100 millions, là. Et ça veut dire que ça, c'est pour cette année. Mais si j'ai bien entendu, c'est sur 4 ou 5 ans qu'il faut faire 4 fois plus d'économies. Donc on ne peut pas accepter, quoi qu'il y ait dans cet accord avec la FESAC, même par esprit stratégique, ça veut dire que dans 4 ans, il ne restera plus rien en termes d'allocation, etc. Puisque si on s'inscrit, ces propositions se sont faites dans le but de répondre à 100 millions d'économies. Si l'État donne 100 millions, c'est aussi toujours ce qu'on avait refusé, à savoir le principe de la caisse autonome qui se profile. Alors, attention à tout ça. Et en même temps, j'aimerais bien, puisque là, il n'y a pas la coordination, connaître l'avis de la coordination sur les dernières propositions. Connaître la position de la coordination.
Qui veut répondre ?
Ouais, plusieurs choses. Je suis d'accord avec ce qu'a dit, je ne connais pas son prénom, sur le fait que je pense effectivement nos patrons à nous, ils ont intérêt à garder ce régime-là parce que enfin, le cachet minimum dans mon secteur de 100 euros, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas les indemnités, s'il n'y avait pas le système de l'intermittence, ça ils le savent très bien. Et donc je pense qu'il y avait une énorme pression, ils s'étaient dit effectivement, je pense que tu l'as bien résumé, si on leur donne 507 heures sur un an, ils signeront tout le reste des économies qu'on veut. Et je trouve qu'il y avait vraiment un vrai courage de nos délégations CGT à avoir été capables de quitter la table de négociation hier en disant dans ces conditions-là, on signe pas, alors même qu'ils nous donnaient ce qu'on avait dit qui était une condition pour signer. Donc ça, je pense que vraiment, faut souligner que c'est... Enfin, il y a vraiment un truc pour essayer de faire que les syndicats soient de plus en plus des choses faites pour le dialogue social et plus pour la construction du rapport de force. Et là, les camarades, en se barrant hier sans accord, ont dit, ben non, nous, on continue à croire à la construction du rapport de force et c'est là-dessus qu'on comptera si vous voulez nous faire avaler des couleuvres. Donc ça, je pense que c'est vraiment hyper positif, faut le dire. Faut aussi le dire, je pense, à l'intérieur de la Confédération, parce que ça se passe pas comme ça partout, dans tous les secteurs où la CGT dirige. Donc ça, c'est une chose. Et sur l'autre chose, c'est sur ce qui se passe en ce moment. Je pense quand même qu'il faut qu'on se donne un temps de fin de cet AG assez rapide, parce qu'il y a l'occupation de l'Odéon. Vous devez savoir, là, moi, j'ai su ça par texto, il y a des gens qui occupent la Comédie-Française en ce moment. Et je pense que ce serait important qu'on aille à l'un, à l'autre, enfin aux deux maintenant, quoi qu'on pense de comment ont été prises ces initiatives ou ce qui se passe. Je pense que là, le rebond médiatique qu'il y a sur la lutte des intermittents, intermittentes, c'est beaucoup dû à cette occupation. Je pense que le nombre qu'on était hier aussi devant Varennes, c'était aussi le fruit indirect de ça. Je pense que la réponse de l'État, du gouvernement et de la police a été quand même gravissime. Et donc ça, il faut qu'on puisse le dire et qu'on soit aux côtés des militants, militantes qui font ce travail-là. Donc je sais pas comment, les choses dont on veut discuter. Et puis aussi, peut-être faire un point, un peu d'infos sur où on en est, parce qu'on a déposé un préavis de grève à partir du 28, de savoir ce qu'il en est des équipes, un peu sans dire des noms de qui va faire quoi, mais est-ce que ça prend un peu, est-ce qu'il y a des chances pour qu'il y ait un mouvement, une reconductible qui part dans nos secteurs, enfin on en est concrètement de la construction de la mobilisation, qui semble d'autant plus indispensable que a priori on n'arrivera pas à trouver un accord.
Bonsoir, Yann, donc danseur. Pour rebondir par rapport à ce que disait Angeline et aussi également toi, Marie. Moi j'ai signé un appel qui s'appelle On bloque tout. Et par rapport au rapport de force dont parlaient Angeline et Marie, On bloque tout, c'est vraiment un appel des syndicalistes aussi en réponse à la loi travail à faire pression sur l'économie, à bloquer l'économie pour réinstaurer un rapport de force avec le patronat, avec l'État. Donc pour l'instant, moi j'ai signé cet appel. J'ai pas vu beaucoup de signatures CGT Spectacle ou SFA et je me demande si aussi ça serait pas un signe fort que la CGT Spectacle s'associe comme certaines fédérations de cheminots, de l'éducation, de l'énergie, etc. et communique sur la signature de cet appel. On bloque tout, montrer que nous aussi, on a un impact avec le blocage sur l'économie, chose que Manuel Valls a voulu nous enlever en 2014, quand le Festival d'Avignon était menacé, il a dit « c'est pas grave, moi je rembourse, je mets la main au portefeuille si jamais il y a annulation du festival ». Donc peut-être qu'il est temps aussi de s'inscrire pour la CGT Spectacle dans cette signature de On bloque tout.
Oui, c'est un début de une réponse partielle. La position du SFA, en tout cas, puisque tu as interpellé la position du SFA, ça a toujours été, et ça n'a pas changé, c'est que les salariés des lieux décident s'ils arrêtent ou pas le travail, ce n'est pas un blocage de l'extérieur. Donc, si les salariés veulent, on leur donne les outils pour le faire, mais c'est eux qui décident d'arrêter le spectacle, d'arrêter d'occuper les théâtres, etc. Oui, au-delà du spectacle, le SFA en tant que tel ne prend pas des positions.
Oui, j'apporterai une petite nuance à mon camarade là. Je pense qu'il faut effectivement qu'on passe à un degré supérieur. Demain, je vais en commission mixte paritaire, par exemple pour le privé, je ne vous cache pas que je vais les menacer. C'est-à-dire leur dire, il y aura des intermittents, même des gars debout la nuit à la République, qui viendront et on va vous arrêter un certain nombre de spectacles. Moi, ça ne me dérange pas, d'arrêter effectivement. Je crois qu'il va falloir qu'on passe à une vitesse effectivement supérieure, mais pour ça, il faut qu'il y ait des copains qui soient avec nous. Et il est là le problème. Il est là. Et pour arrêter aussi le travail, il n'y en a pas beaucoup qui veulent l'arrêter. Alors, il faut trouver peut-être d'autres formes et des formes peut-être un peu plus menaçantes. Je ne rejoins pas le camarade sur le fait qu'il faut arrêter tout. Ben oui, il faut arrêter tout, mais dans nos métiers, on sait très bien que les gars, ils ne s'arrêtent pas. Pour l'instant, ils ne s'arrêtent pas. Il y a une journée de grève, on verra ce que ça donne, ce sera déjà très bien, sur la loi El Khomri et sur nos problèmes. Après, on va voir. Mais je vous invite, vous, à venir effectivement pour... qu'on crée déjà au SFA, à la Fédé du spectacle, venez avec nous pour créer des mouvements, des mouvements qui soient aussi inopinés. Et ça, ça leur fait peur. Alors je vous invite vraiment à le faire. Un petit détail aussi, s'il y a un accord avec la FESAC, en 2001, le MEDEF, on a négocié pendant 18 mois, après 18 mois, à la demande du MEDEF. On a négocié 18 mois avec la FESAC et après, ils se sont assis sur notre accord. Donc là, on verra ce que fait le MEDEF.
Il n'y avait pas la loi, le texte de loi qui obligeait la négociation dans le secteur professionnel à l'époque. Mais t'as raison. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Il y a le jeune homme là, il y a aussi le jeune homme là-bas, et toi aussi. Puis peut-être qu'aussi, on passera la parole aussi au représentant du SAMTAC, qui est le syndicat des professionnels du théâtre et des activités culturelles, les permanents intermittents, techniciens administratifs, accueil, pour justement avoir des échos de la mobilisation dans les théâtres.
Juste une question simple par rapport à la négociation de demain. S'il n'y a pas d'accord qui est trouvé demain entre la FESAC et nous, grosso modo, qu'est-ce qui se passe ?
En fait, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas d'accord, c'est le secteur interprofessionnel qui reprend la main et qui va décider des règles, etc. Donc, qui va peut-être nous appliquer le cadrage, enfin, qui va sûrement même nous appliquer la lettre de cadrage, 185 millions d'euros d'économie, 25% sur 4 ans, mise à contribution de l'État et rapprochement des règles annexes 8 et 10 et régime général. Clairement, c'est ce qui va se passer.
Oui. Bonsoir, Laurent Blois pour le syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma. Dire que dans le spectacle enregistré que je représente, entre autres, on n'est pas assez nombreux effectivement à se mobiliser, c'est un vrai souci. Et je sais qu'il y a un certain nombre de camarades qui ont la double casquette d'être à la fois adhérents chez nous, mais aussi d'appartenir à certaines associations professionnelles. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment que le message passe sur l'importance qu'il y a en ce moment sur le terrain des annexes 8 et 10. En termes de blocage, d'arrêt de travail, on a été informé qu'un tournage sur Lille, Petit meurtre entre amis, ils avaient appelé à la grève demain, donc ils ne travailleraient pas jeudi, pardon. Oui, Petit meurtre d'Agatha Christie, ça passe, c'est pas mal fait. J'ai dit, entre amis, c'est ça ? Oui, puisqu'il y a les deux. Il y en a un qui s'appelle Entre amis, il y en a un d'Agatha Christie. Voilà. En tout cas, eux, ils seront en grève jeudi. Ils nous ont informé l'équipe avait décidé de faire grève. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur la question du déficit. Il est bien évident qu'aujourd'hui, la question du déficit de l'assurance chômage en général, s'entend, elle se pose parce qu'on a un régime d'assurance chômage qui n'est pas en mesure d'absorber 6 millions de demandeurs d'emploi. Voilà, très clairement. Je veux dire, c'est des régimes qui ont été mis en place dans d'autres périodes de l'histoire, et très clairement, quels que soient les secteurs, à un moment donné, on ne peut pas, je veux dire que l'équilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, le déséquilibre en tout cas est tel que ces régimes ne peuvent pas absorber. Donc, à mon avis, est-ce que ça mérite effectivement qu'on s'arrête sur ces questions d'équilibre budgétaire sans prendre le risque à un moment donné d'être un peu les dindons de la farce? Ce qu'il y a d'important à retenir à l'issue de ce qui se passera demain, c'est que de toute façon, la fusée, elle a deux étages. Voilà. Il y a l'étage, effectivement, de pouvoir négocier un accord d'ici demain avec l'ensemble des représentants employeurs du spectacle. Et c'est vrai qu'en termes d'affichage, c'est un enjeu important, parce que ce serait faire la démonstration, ça vaut ce que ça vaut, mais ce serait faire la démonstration au moins au MEDEF, effectivement, qu'on est en mesure, dans le spectacle, de se mettre d'accord sur un accord. Le risque, dans l'état actuel de ce qui a été proposé et de ce qui a été laissé dans la négociation dans la nuit dernière, Daniel l'a dit, Jimmy l'a un peu dit aussi, c'est que, très clairement, l'équilibre n'y est pas. C'est-à-dire que même si on récupère effectivement 507 heures sur 12 mois, moi, si je prends l'exemple du spectacle enregistré, sur cet accord, on a plus à perdre, effectivement, qu'à gagner, si on cumule les différentes mesures de cumul des plafonds, de différé, etc., etc. Voilà. Donc, ça aussi, c'est à bien peser. C'est-à-dire qu'on aura l'impression de satisfaire quelques copains, mais on prendra le risque aussi d'en insatisfaire un très grand nombre. Donc, et c'est vrai qu'on n'a pas une visibilité absolue sur ces questions-là. Voilà. Donc, ça, c'est... Et ensuite, et c'est pour ça que la question de la mobilisation est plus que jamais posée, c'est-à-dire qu'il y a le deuxième étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est quand même, à un moment donné, de faire pression sur le MEDEF. Voilà. Et que ça, on le sait, c'est toujours extrêmement compliqué. C'est toujours jamais gagné. Voilà. Enfin, sur la question de demander aux gens de bloquer l'économie, nous, a priori, au SPIAC, ça ne nous pose pas de soucis. Hein, voilà. Sauf que pour bloquer l'économie, c'est les salariés qui décident de bloquer l'économie, ce me semble. Voilà. Donc on peut, moi je veux bien signer tous les appels à bloquer l'économie qui se présenteront. On n'est pas avare de signatures, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la question, c'est de convaincre au premier chef ceux qui travaillent, effectivement, de ce processus. Et ça... Je ne dis pas que c'est inatteignable, hein, ce n'est pas mon propos, mais en tout cas, ça ne va jamais de soi. Voilà.
Alors, où est-ce qu'il y avait une question encore? Vous aviez une question?
Non, je n'ai pas de question. En fait, je m'appelle Jean, je suis étudiant à Paris 8 Saint-Denis et membre du syndicat Solidaire étudiant. Et je viens vous parler là d'une action qui aura lieu demain. À la gare dont le rendez-vous est à 11h30 à la gare de Poissy, c'est le terminus du RER A à l'ouest de Paris. Action de soutien, action de convergence, pardon, entre les camarades de PSA Poissy et de la SNCF qui, comme vous le savez, ont été en grève aujourd'hui et on l'espère reconductible au moins jusqu'à dimanche, voire jusqu'au 3 mai. Le problème dans cette histoire, c'est que j'ai allé à l'encontre de ce que disait mon prédécesseur, c'est que en ce moment, outre la loi travail, c'est qu'il y a des milliers de luttes un peu partout dans le pays, la PHP, la Poste contre la privatisation rampante, la SNCF contre le décret socle. Le décret socle, pour faire court, c'est la loi El Khomri version SNCF, donc encore plus concentrée et encore plus néfaste. Nous, les étudiants, avec les fusions d'universités, par exemple la mienne, celle de Saint-Denis, est en processus de fusion avec Nanterre, ce qui s'y provoque des suppressions de postes, des suppressions de télé, même des suppressions de départements tout entiers. Avec la mobilisation actuelle qu'il y a contre la loi El Khomri, on a une occasion inespérée de rassembler toutes ces luttes pour en faire une seule et pour pouvoir enfin peser. Parce que tant que chaque corporation restera dans son coin comme mon prédécesseur voudrait bien le faire, ça ne marchera pas.
ça ne marchera pas. Les bureaucrates syndicaux, ils vont nous dire, par exemple pour les intermittents, attendons jusqu'aux les festivals d'été pour... par exemple, je dis pas ça, par exemple, ça aurait été un exemple, mais typiquement, la Confédération CGT appelle à une grève reconductible que le 17 mai. Le 10, moi j'ai... Non,
Vas-y. Je te repasse le micro après. La CGT Spectacle a posé, c'est la première fédération qui a posé un préavis de grève reconductible à partir du 28, illimité, voilà. Ça a fait pression et ça a joué sur le fait que la Confédération a posé un préavis de grève reconductible à partir du 28, avril. Hein. Ça a été décidé la semaine dernière, puisqu'il y a un délai, il y a des délais légaux à respecter, et ça a été annoncé pendant le congrès la semaine dernière. Donc ce n'est pas le 17 mai, c'est à partir du 28 avril, il y a un préavis de grève au niveau national, déposé par la Confédération Générale du Travail, reconductible.
Le problème, c'est que pas plus tard que ce matin, au micro d'RMC, Jean-Pierre Mercier... Philippe Martinez, merci. Philippe Martinez disait pas plus tard que ce matin que non, on n'irait pas bloqué jusqu'à l'euro. Or, le gouvernement, son objectif, c'est de faire traîner les choses en longueur, c'est-à-dire que là, on voit l'essoufflement juste en face à la place de la République du mouvement Nuit Debout, donc ils se disent « tenons bon comme ça ». Et ça va y aller. Et dans le même temps, vous avez les confédérations syndicales, malheureusement. Moi, j'ai des amis à Sudrail qui me disent que la CGT Rail fait tout pour ne pas aller à la grève reconductible, malheureusement. Donc moi, j'invite les délégués de base, que ce soit de la CGT, de Sud ou de FO. Moi, c'est ce que j'ai eu pas plus tard que ce matin. J'étais à Gare du Nord et j'ai des potes syndicalistes qui me disent que malheureusement c'est le cas. C'est très frileux. Pour l'instant, il n'y a que Sudrail qui a posé un préavis de grève reconductible dans le rail, jusqu'à preuve du contraire. Bon.
Excuse-moi, je juste reprends ce qu'a dit Joachim. Nous avons déposé un préavis de grève illimité, donc c'est pas à nous de. Enfin, voilà. Nous,
moi, je parle de la confédération. Oui. Je parle de la confédération générale.
Oui, mais la confédération, elle bougera si les fédérations bougent et si les syndicats bougent. La confédération ne nous donne pas d'ordre. Et si les syndicats bougent et tous les syndicats se mettent en œuvre, la confédération, elle suivra. Donc, on fonctionne dans ce sens-là à la CGT. Je pense que si c'est juste pour polémiquer sur la confédération CGT, c'est pas l'objet de notre assemblée générale. Je te remercie. Et on va passer la parole aussi au SAMTAC.
Bien sûr, on va passer la parole au SAMTAC. C'est une assemblée générale ici qui concerne au premier titre les artistes et les techniciens qui fait le point sur une étape décisive des négociations. Évidemment, tout le monde a le droit de prendre la parole. Tu parlais d'une action, peut-être tu peux préciser en deux secondes un rendez-vous, mais c'est-à-dire que si après on va pas refaire le contexte social ce soir ici, tu vois, voilà.
Donc, en résumé, rendez-vous demain à 11h30 à la gare RERA de Poissy. Donc, c'est pas très loin d'ici, la gare de Châtelet, vous descendez au terminus de Poissy. Ce sera à 11h30 en soutien aux camarades à la fois de PSA et à la fois de la SNCF. Parce que tant qu'on ne se réunira pas, on ne pourra pas avancer.
Merci. Donc, je suis Rémi Vanderem, je représente le SAMTAC CGT, qui est le syndicat national des professionnels du théâtre et de l'action culturelle. Et c'était pour faire un petit point sur les mobilisations en cours dans les différents théâtres parisiens. Donc, je vais le garder accroché comme ça, scratch. Il se trouve que nous sommes à Paris en vacances. Je prendrai pour exemple le Théâtre National de Chaillot, qui a participé sur deux mouvements de grève importants où des spectacles ont été annulés durant les mobilisations, les premières dates de manifestations et de grèves sur les mobilisations sur la loi El Khomri. Et le 28, beaucoup sont en congé, il n'y a pas de spectacle. L'Odéon est un cas un petit peu particulier. Le 28, actuellement, les choses se passent plutôt au jour le jour. Donc aujourd'hui, en fin d'après-midi, ils ont décidé, je parle de la direction, d'annuler la représentation au Théâtre National de l'Odéon. Nous avons comme information, pour ce qui concerne l'Opéra Bastille, mais il est toujours un peu difficile d'annoncer des grèves. Lorsque, faut quand même rappeler que ce droit de grève est un droit individuel et que dans ces maisons, les choses ne sont pas forcément débattues lors d'assemblées générales et avec une position collective, comme ça peut arriver dans d'autres entreprises. Donc j'ai eu des retours comme quoi ils devraient être en grève, mais je ne vais pas l'annoncer comme un scoop, parce que c'est pas ainsi que ça se passe. Pour l'Opéra Garnier, il y a un peu plus d'incertitude. Il n'est pas certain, alors qu'ils ont été, eux aussi, durant les précédentes mobilisations et journées de grève, acteurs et avec des spectacles qui n'ont pu avoir lieu parce qu'ils étaient en grève, les équipes tournent. Les salariés portent des journées de grève successives depuis un mois et demi et que ce débat traverse toutes les entreprises en France. C'est-à-dire que je ne pense pas que dans le milieu du spectacle et du théâtre, ce sont également des entreprises avec des salariés qui ne peuvent assumer seuls des journées de grève. Voilà, c'est en débat dans les entreprises. Nous avons dans la décentralisation plusieurs lieux qui sont actuellement occupés. Il y a plusieurs centres dramatiques, Lille, le CDN de Bordeaux, le CDN de Montpellier. J'en oublie sans doute Toulouse également. Et là, de la même façon, ces occupations se sont faites sur une relation établie entre une revendication qui a été portée et le fait de ne pas forcément bloquer les spectacles. Donc les spectacles, dans certains lieux, les spectacles se jouent, dans d'autres, les spectacles sont bloqués, et dans d'autres, ce sont les salariés qui choisissent d'être grévistes. Voilà, autrement, je n'ai pas de scoop sur, pour le 28, une journée de grève nationale annoncée dans tous les lieux et dans tous les théâtres de France.
Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ou... Vas-y, Mathieu.
Donc, si j'ai bien compris, on en est au point où il faut remplir les caisses pour faire 100 millions d'économies. Et donc, je me demande s'il a été mis sur la table, par exemple, le sujet du travail au noir dans nos métiers, qui est très important, et là où il y a de l'argent à aller chercher, par exemple, qui rejoint le travail amateur, qui souvent est au noir, ça va de soi, qui rejoint l'article 11A contre lequel on se bat. Je me demande si ça a été évoqué avec nos amis.
Et juste, oui, je voulais une réponse à ma question concernant le différé, le financement du différé. Est-ce que...
Alors, comme c'était le premier qui a été déposé il y a très longtemps, pour l'instant, jusque maintenant, le fric du gouvernement, qui représenterait apparemment quelque 84 millions d'euros, a été utilisé pour compenser la non-application du différé de l'accord de 2014. Il est prévu que cet argent, dès le mois de juin, normalement, sauf que les textes ne sont pas sortis encore, cet argent sert à alimenter un fonds pour l'emploi dont les contours ont été esquissés dans la conférence pour l'emploi d'octobre dernier, mais sur lesquels la répartition des fonds selon les secteurs n'est pas encore établie définitivement, malgré un rapport, un travail de rapport, une mission qui a été confiée à Monsieur Charpie, l'ancien directeur des ACEDIC d'ailleurs. Ça doit se faire normalement les jours qui viennent, et on sache comment on va dépenser ce fric. C'est d'ailleurs une des choses qui nous fait dire et qui fait Azoulay dire à l'une, comment ça s'appelle, au MEDEF et compagnie, que les choses devraient s'arranger avec de l'emploi. Ça devrait, mais s'il y avait de l'emploi, il y aurait moins besoin d'assurance chômage, c'est clair. Deuxième chose, c'est que dans le cadre de la lettre de cadrage ou les discussions, parce que ce n'est pas dans la version définitive de la lettre de cadrage, le MEDEF et certains syndicats ont dit le gouvernement n'a qu'à financer le fait que c'est pour eux le système de chômage, d'assurance chômage, est un paramètre de la politique culturelle. Et donc, mettez les sous dedans, direct. Nous, on est contre, on a pris un truc d'urgence, mais on est contre le fait de directement alimenter les caisses de l'assurance chômage par l'État. C'est aux employeurs de compenser le fait qu'ils ne fournissent pas l'emploi. Et si c'est des secteurs où il y a besoin de fonds publics pour créer l'emploi, on le met directement dans le secteur, dans ses productions, dans la production, pour créer de l'emploi. Et non pas pour. Nous, on n'est pas pour un droit au chômage. On est pour l'emploi. Il y a une distinction avec certains de nos camarades qui sont ailleurs ce soir. Deuxièmement, sur le travail en noir, comme je disais avant, dans le cadre de l'accord sur l'assurance chômage, la notion de travail en noir en soi ne peut pas paraître, parce qu'il s'agit du travail salarié. Cela dit, il y a eu des allusions faites on ne va pas dire au soutien, mais aux non-expressions de certains de leurs employeurs sur l'article 11A de la loi sur la création, l'architecture et le patrimoine, qui permet l'utilisation des travailleurs non payés dans les spectacles professionnels, et sur le fait que ça, c'était un moyen de ne pas payer, justement, des cotisations sociales. Mais ça ne peut pas être dans le cadre de l'accord chômage, parce que c'est déjà illégal pour l'instant d'embaucher au noir. Et ce qui est grave avec la loi sur la création et son article 11A, c'est qu'il rend légal ce qui est actuellement illégal, et là où il y aura encore moins besoin d'inspecteurs de travail, parce que de toute façon, ils ne vont pas trouver quoi que ce soit à dire sur un spectacle dans lequel il y a des mecs qui ne sont pas payés, puisque on va dire que c'est des amateurs. Oui, on dit que les 85 millions, c'est l'idée, c'est de les mettre dans la création. Oui.
Oui. Bonsoir, moi c'est une question toute bête. Si j'ai bien compris ce qui s'est dit hier devant le ministère, il y a malgré tout, le comité a rendu un document chiffré qui correspond à un certain nombre des questions qu'on se posait. Je voulais savoir si ce document était public et consultable ou pas.
Il y a 47 pages de chiffres qui n'ont pas énormément d'utilité si tu n'as pas suivi chaque minute par minute la discussion. Mais regarde, il y a des trucs là. Hein. Il n'y a pas de problème. Te le montrer, je les ai dans mon sac à dos.
Bon, je vais vous sembler particulièrement imbécile, mais il me semblait que le Conseil d'État avait annulé la convention qui avait été signée en 2014.
Le Conseil d'État a effectivement annulé à cause de deux éléments.
Oui.
Le Conseil d'État a aussi donner ensuite une prorogation, disons qu'ils avaient jusque là, maintenant, oui, pour trouver un système pour légaliser ce qui n'allait pas. Donc, ils ont passé déjà pour une partie des choses qui posaient problème. Ils ont fait des avenants, et ça a été régularisé. Et dans la loi El Khomri,
il y a deux éléments qui ont été retoqués par le Conseil d'État qui ne dépendaient pas des partenaires sociaux. Les autres dépendaient, ce qui a été réglé par avenant dépendait des partenaires sociaux. Les deux éléments qui ne dépendaient pas des partenaires sociaux, c'est le fait que l'assurance chômage, que le Pôle emploi ait le droit de suspendre des allocations avant que le recours, qu'on aille jusqu'au bout du processus. Ça, c'est dans la loi El Khomri, donc ils n'ont pas repris, ils n'ont pas recommencé à faire ça. Et l'autre chose qui était dans le, qui a été suspendue par le Conseil d'État, c'était le fait que, auparavant, quand tu déclarais pas tes heures sur la carte de pointage, enfin le truc mensuel dans sur Internet, que même s'il y avait un AEM ensuite, ces heures ne pouvaient pas être prises en compte pour l'ouverture des droits. Donc le Conseil d'État a dit que ça n'allait pas. Donc ça, les partenaires sociaux n'ont pas pu l'arranger par avenant. Donc Pôle emploi ne l'applique pas. Mais la loi El Khomri le fait.
D'accord. Et je voudrais poser une question là, c'est pour vous faire sourire. Est-ce que les effets comportementaux des patrons ont été étudiés par les statisticiens ?
Je voulais juste le premier point là de ce qui a été suspendu par le Conseil d'État. J'ai pas compris. Si vous pouvez
le premier point qui a été suspendu par le Conseil d'État. Quand s'il y a un litige avec les ACEDIC, avec Pôle emploi, si c'est au moment de un réexamen, ça peut prendre des mois et des mois pour régler. Là, le Conseil d'État n'a pas touché ça. Par contre, si en cours d'indemnisation, l'ACEDIC dit t'as triché ou il y a un truc qui ne lui plaît pas, ils arrêtaient jusqu'au mois d'octobre. Ils pouvaient, ils ne le faisaient pas tout le temps, mais ils pouvaient arrêter le service des allocations. Le Conseil d'État a dit que ça n'était pas de la compétence de Pôle emploi. C'était la compétence de la direction du travail, donc de l'État. Résultat des courses, il fallait changer ça par une loi. La loi travail, El Khomri, fait ça. C'est dans l'article 52 de cette merveilleuse œuvre.
On va prendre les dernières questions, puis on va s'arrêter.
J'insiste un peu, excuse-moi.
Insiste.
Donc le travail au noir est illégal, on est d'accord.
Vas-y.
Mais puisqu'ils nous demandent de faire 100 millions d'économies, on peut chiffrer combien coûte le travail au noir, ou combien ne rapporte pas le travail au noir. Et on pourrait dire que ça fait partie de l'effort que feraient les patrons à parts égales avec nous. Enfin, si tu veux, on fait un certain nombre d'économies. Ils nous demandent de faire un certain nombre d'économies, on pourrait demander un chiffrage du travail au noir dans nos secteurs. Et faire en sorte que qu'ils s'engagent à l'arrêter. Ce qui ferait des économies, enfin ce qui ferait rentrer de l'argent dans les caisses en tout cas.
Je dirais à Marc de le faire.
Et donc ça pourrait rentrer dans le cadre de cette négociation.
Bah, oui, mais chiffrer le travail en noir, comment faire ?
Juste une question. Demain, donc, si j'ai bien compris, des chiffres sont remis sur les modélisations proposées, c'est ça ? Il va y avoir des chiffres, parce que, en fait, on n'a pas de...
On a beaucoup de chiffres, on a beaucoup, beaucoup de chiffres, mais des chiffres sur des points précis de l'accord, hein, et sur les chiffres des effets de 2014. Un certain nombre de chiffres sont pas très lisibles tels quels, et on n'a pas tout. On voudrait... on a des moyens pour des tranches. Donc on dit par exemple que l'impact sur des gens gagnant entre 9 000 et 11 000 euros pour qui ont fait entre 550 et 610 heures et 24. Mais c'est la moyenne. Si tu as gagné 9 030 euros pour 577 heures, on ne sait pas.
Parce que
Donc, c'est les courbes qu'on a dans des effets de seuil
ridicule et qui sont donc ne nous permet pas de savoir comment ça va m'impacter moi.
Oui, parce que ma question c'est simplement que c'est vrai que c'est pas évident de comprendre tout ça. Et que ce serait peut-être utile d'avoir différents exemples, plus ou moins parlants.
Mais c'est déjà ce qu'on espère qu'on va avoir demain à midi et demi. Ou à partir de midi et demi, ils nous ont promis des chiffres, comme ça. Marie.
Dernière question, alors après on...
C'est pas une question, c'est sur ce qu'on fait là. Moi je pense que ce serait, on n'est pas 200, mais qu'on décide d'aller collectivement à un endroit ou à un autre. Moi je pense que ce serait bien. Ouais. Non, mais là, oui, ok, ça se prépare, mais il y a aussi un moment où il faut savoir saisir les...
Elle parle de maintenant.
Non, je parle de là tout de suite, maintenant.
Non, mais apparemment, de ce qu'on sait, c'est qu'à l'Odéon, ça serait dispersé vers 20h. On appelle ceux et celles qui souhaitent aller à la Comédie Française. Il y a ça, bien évidemment. Donc on a plusieurs rendez-vous, on a demain la négo, le 28 donc il y a appel à la grève illimitée et pas reconductible, donc c'est un préavis qu'on pose et qui vaut jusqu'à ce qu'on le lève, parce ce qui n'empêche pas, en fait, on l'a déposé pour qu'on puisse être sur les lieux de travail, les plateaux de théâtre, les plateaux de cinéma, discuter des grèves, des moyens d'action à mettre en place par rapport à la suite, hein, de est-ce qu'on a un accord, est-ce qu'on n'a pas d'accord, etc. Mais de toute façon, qu'on ait un accord ou qu'on n'ait pas un accord, va falloir se mobiliser, se bousser. Et largement au-dessus, il faut monter d'un cran, il faut se mobiliser largement au-dessus de ce qui est de la mobilisation actuelle. On fera, je pense, en début de semaine prochaine, parce que c'est vrai qu'on pensait avoir fini la négo hier et donc faire une assemblée générale qui explique où on en est, mais là on n'a pas réservé de salle, donc on fera une assemblée générale sûrement en début de semaine prochaine pour vous tenir aussi au courant de où on en est, ce qui a été signé, etc., notre position, puis pour débattre aussi de la suite.
Et pour les adhérents du syndicat français des artistes et interprètes, vous recevrez demain matin une convocation pour l'assemblée générale mercredi 4 à 19h, ici dans la bourse de travail, au sous-sol, dans la salle Jean Jaurès. Et ceux qui veulent aller quelque part, Marie va quelque part, je ne sais pas où, mais elle est là.